Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Trois initiales MTN qui désignent un groupe d'une vingtaine d'affections qui touchent essentiellement les populations les plus pauvres de la planète. Ces maladies tropicales négligées sont provoquées par des parasites, des virus, des bactéries et la plupart d'entre elles portent des noms complexes, souvent méconnus ou carrément inconnus quand on vit à Paris, à Montréal ou à Tokyo. Bilharziose, leishmaniose, ces maladies peuvent être redoutables pour les personnes contaminées qui souvent sont confrontées à l'insalubrité comme un accès très limité aux structures de santé. Prise en charge tardive, complications et surinfections fragilisent les patients. Mais pour quelques-unes de ces maladies qui sévissent donc en zone tropicale, la riposte a porté ses fruits, comme en Guinée où l'on observe les résultats de la lutte contre la maladie du sommeil, comme au Niger qui a éliminé l'oncocercose, la cécité des rivières. La lutte doit se poursuivre pour confirmer le recul du nombre de cas à l'échelle planétaire. Ces progrès qui ont permis à 54 pays d'éliminer au moins une MTN, mais la tâche reste immense puisqu'en 2023, l'OMS dénombrait encore plus d'1,5 milliard d'individus traités dans le cadre de la riposte à ces maladies de la misère. 30 janvier, journée mondiale des maladies tropicales négligées, prévention, diagnostic, prise en charge, dracunculose, échinococose, tingose, quels symptômes derrière ces noms de maladies parasitaires? Pour nous éclairer, on retrouve dans les studios de RFI, professeur Areski Izri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences universitaires et professeur émérite en parasitologie mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. La Guinée qui annonce, et oui officiellement, l'élimination durable de la maladie du sommeil aujourd'hui. On retrouve en ligne de Conakry tout à l'heure le professeur Mamadi Camara, coordinateur national au sein du ministère de la Santé guinéen du programme national de lutte contre la trypanosomiase, oui c'est pas facile, humaine africaine, c'est donc le nom scientifique de cette maladie transmise par la mouche tsetse. Et puis un autre territoire concerné par les MTN, c'est Madagascar, on va joindre sur la grande île tout à l'heure la professeure Miali Razanako Lona, chef de service de microbiologie, parasitologie, mycologie au CHU JRA d'Antananarive, bien sûr, si vous souhaitez témoigner, notre numéro 33 7 71 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Certaines maladies tropicales négligées portent des noms complexes. Les auditeurs, vous devez m'excuser si je bute sur certains noms. On va essayer de se familiariser avec certaines d'entre elles pour mieux les faire connaître au grand public. Professeur Areski Izri, certaines maladies d'ailleurs rangées au nombre de CMTN sont plutôt connues, sans forcément qu'on sache qu'elles appartiennent à cette classification établie par l'Organisation mondiale de la santé, la lèpre, la gale. À peu près tout le monde connaît ces noms au moins, même si on ne sait pas forcément tout ce que ça recouvre. Mais on va commencer par là. Cette famille des MTN, pourquoi est-ce qu'elle a été établie? Qu'est-ce qu'elle recouvre exactement?
Alors, les maladies classées par l'OMS dans cette catégorie sont des maladies qui ne bénéficient pas, si vous voulez, d'un support financier, de recherche, etc., pour les éliminer. Comme elles ne touchent que des populations pauvres, un peu éloignées, si vous voulez, des pays riches qui ont les moyens de les combattre, ces maladies, eh bien, on les néglige un petit peu. Nous avons quelques exemples que je n'ai pas retrouvés d'ailleurs dans la liste de l'OMS. C'est par exemple l'amibiase, où il y avait d'excellents produits par le passé, mais qui, comme ils étaient un petit peu dangereux, ils ont été éliminés. D'autres produits qui, n'étant plus rentables, ne sont plus commercialisés.
Alors, amibiase, c'est le nom qu'on connaît, les amibes, c'est quoi? C'est des êtres microscopiques qui sont dans nos intestins ou...
voilà, qu'on attrape en buvant de l'eau souillée, des aliments souillés, et la dysenterie amibienne, que c'est ce que ça donnait, a tué beaucoup de gens.
Par déshydratation, notamment.
Par déshydratation, c'est des diarrhées profuses ou bien des abcès amibiens au niveau du foie, etc.
Alors, certaines zones de la planète sont affectées par plusieurs de ces maladies tropicales négligées simultanément, avec un critère de vulnérabilité vraiment. C'est pour ça qu'on dit les maladies de la misère. S'il fallait établir une géographie, où est-ce qu'on les retrouve surtout, ces maladies? On peut imaginer Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et Afrique?
Oui, il fut un temps où on utilisait un terme, la ceinture de pauvreté du globe. C'est un petit peu ça. Hein. Donc, tout ce qui est autour de l'équateur, en quelque sorte. Oui, en Afrique, en Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique latine.
Alors, des maladies sur lesquelles vous travaillez, vous, spécifiquement, on a dit, hein, parasitologie notamment, avec un vecteur... Un arthropode, c'est quoi un arthropode ?
Un arthropode est un animal qui a des pattes articulées, c'est tout simple.
Donc ça va plus loin que, par exemple, les insectes volants, hein. C'est pas simplement les moustiques, c'est tout.
Ce sont les insectes et les acariens.
Les insectes
et les acariens. Je schématise.
Hein. Ouais. Alors évidemment, grâce aux stratégies de lutte et de riposte, la géographie, elle évolue. On va le voir tout à l'heure en Guinée. Vous êtes spécialiste, donc je l'ai dit, en parasitologie. On va s'arrêter sur une de ces maladies tropicales négligées potentiellement redoutables. C'est la leishmaniose. Professeur Areski-Izri, déjà, on devrait parler des leishmanioses au pluriel parce qu'il existe plusieurs formes de cette maladie.
Tout à fait. Alors, il existe plusieurs formes. La globalité, c'est à peu près 1 à 2 millions de cas chaque année dans le monde. À peut-être 300 à 500 000 cas de leishmaniose viscérale, c'est-à-dire qui touche l'intérieur de nos viscères, le foie, la rate, la moelle osseuse, etc. C'est une forme mortelle. Si elle n'est pas soignée à temps. Et puis ensuite, il y a les leishmanioses cutanées de la peau et des muqueuses. Ce sont les formes les plus répandues qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, même si en Europe, on est plus ou moins épargné parce qu'on n'en a presque pas, des formes cutanées.
Le vecteur, c'est quoi ? Ou le parasite ?
Ces maladies sont dues à un petit microbe, un protozoaire, flagellé comme on dit, qui est transmis par un phlébotome. Un phlébotome est un tout petit insecte de 2 à 4 mm qui pique la nuit. Il a un vol silencieux, on ne le sent pas, on le voit pas arriver, mais il fait des dégâts.
Il fait des dégâts. Ça veut dire que, par exemple, quand on est en zone tropicale et qu'on se protège contre le paludisme, est-ce que les moyens, les outils mis en œuvre pour lutter contre le moustique, qui n'est donc pas un phlébotome, c'est autre chose, ça peut aussi éviter d'attraper, de contracter une leishmaniose ?
Plus ou moins.
Ouais.
Plus ou moins parce que le moustique, pour s'en protéger, on utilise des moustiquaires. Si c'est des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ça peut marcher contre les phlébotomes. Sinon, le phlébotome mais tout petit, passe à travers les mailles de la moustiquaire. Le moustique, on lutte contre lui en traitant des eaux, des collections d'eau, des mares d'eau, etc. Or, le phlébotome ne se reproduit pas dans l'eau. Il se reproduit plutôt dans des abris d'herbivores. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent.
Professeur Areski-Izri, en termes de prévention ou de traitement, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de lutter efficacement contre la leishmaniose ?
Alors, si c'est la leishmaniose viscérale, il faut traiter d'abord les chiens, parce que le réservoir de la maladie, ce sont les chiens domestiques, principalement. Hein, je parle de la forme méditerranéenne, viscérale méditerranéenne. Et donc, on peut les protéger avec des colliers insecticides, parfois des applications de produits insecticides. Ce qui limite, si vous voulez, la prolifération du parasite qui donne la leishmaniose. Mais ça ne lutte pas contre le phlébotome. Le phlébotome, on peut éventuellement traiter les rideaux, les abris d'herbivores avec des produits insecticides, même si j'aime pas trop utiliser ces produits.
Alors, la riposte, les facteurs qui freinent les efforts, parce qu'on a une question très intéressante que pose sur WhatsApp un auditeur de Kinshasa, c'est Joseph. Il demande si le changement climatique, ça peut influencer la propagation de ces maladies tropicales négligées. Professeur Izri.
Oh oui, on en parle depuis très longtemps. Ça fait au moins 30 ans qu'on parle de ça. Et c'est vrai que le réchauffement que l'on observe actuellement fait monter plus vers le nord les maladies tropicales. Oui, il y a un impact clair et net là-dessus.
Alors, comme promis, professeur Izri, on part tout de suite pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
On vous retrouve en ligne, professeur Mamadi Camara, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes au sein du ministère de la Santé de la Guinée, le coordinateur national du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, autrement dit la maladie du sommeil. Je précise que cet entretien a été enregistré. Alors c'est un grand jour hein, pour votre programme, pour vos équipes, professeur Camara, avec cette annonce de l'élimination durable de la maladie du sommeil en Guinée. Élimination durable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour votre pays ?
un grand soulagement d'abord pour notre pays et un grand honneur pour tous les artisans de la lutte contre la maladie du sommeil en Guinée et en Afrique. Cette élimination, comme on le dit quand même, c'est l'atteinte du niveau d'élimination comme problème de santé publique. La maladie est éliminée comme problème de santé publique, cela ne veut pas dire que la maladie est finie et qu'on doit baisser les bras, on doit arrêter. Non. Nous avons atteint un niveau, une phase qui est très importante dans la lutte contre la maladie. Nous sommes partis d'abord effectivement du stade de contrôle parce que la maladie, on avait plus de combien de cas par an et on a pu contrôler la maladie en 2012. Avec l'atteinte de ce niveau, nous sommes lancés pour l'élimination de la maladie comme problème de santé publique, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000 personnes visitées. C'est aujourd'hui, grâce à l'effort de tout le monde, à l'effort de tous les artisans, n'est-ce pas, de la lutte, nous avons pu atteindre vraiment ce seuil qui est un grand ouf de soulagement pour la Guinée et pour la communauté internationale.
Vous êtes spécialiste, professeur en épidémiologie et en entomologie médicale, donc on peut bien imaginer que vous surveillez tout ça de très près. En termes de recensement, est-ce qu'on sait aujourd'hui, au moment où l'on parle, combien de personnes sont concernées par la maladie du sommeil en Guinée ?
La Guinée, il y a eu une spécificité vraiment parce que la maladie est focalisée sur une zone de mangrove. La zone de mangrove, nous avons plus de 4 millions de personnes qui y vivent et qui travaillent dedans. Donc si nous voyons un peu aujourd'hui vraiment les personnes qui sont à risque de cette maladie en Guinée, nous allons l'évaluer à environ 6 millions de personnes qui étaient exposées au risque trépanique. Donc avec l'atteinte du niveau de 1 cas pour 10 000 personnes, donc avec la lutte antivectorielle et tout ce qu'on a mis comme stratégie de lutte aujourd'hui, nous pensons quand même qu'on a mieux contrôlé et nous avons atteint le seuil de l'élimination.
Quels ont été précisément, professeur, les dispositifs particulièrement efficaces dans cette riposte ?
Nous avons mis en place la lutte antivectorielle, nous avons mis en place le dépistage rapide des cas et nous avons mis en place un traitement efficient des cas, des malades.
Un traitement efficient, ça veut dire qu'il y a eu un nouveau médicament qui a fait preuve d'une grande efficacité par rapport au précédent ?
Voilà, nous avons mis vraiment en place quand même de nouvelles molécules qui ont facilité la prise en charge des malades. Parce qu'avant, avec l'arsobal, c'était très contraignant, difficile et complexe. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles molécules que nous avons vraiment sous la main, ça facilite davantage le traitement. C'est le traitement oral. Donc, nous avons le fexinisadol, nous avons l'oxaborol. Ces nouvelles molécules-là, vraiment, ça a fait une grande révolution dans le traitement des malades.
Ça veut dire que les malades étaient mieux traités. Du côté de la lutte antivectorielle, comment justement on réussit à se débarrasser de la mouche tsetse ?
Nous avons pour cela utilisé les écrans, les petits écrans qui ont imprégné d'insecticides, qui ont été vraiment déployés sur les sites là où le contact homme-vecteur était très important. Et nous avons déployé ces petits écrans sur toutes ces zones-là. Et ça a vraiment diminué drastiquement la densité glossinienne dans ces zones-là.
Donc, pour bien décrire pour les personnes qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'il y avait énormément d'équipes qui allaient sur le terrain. Des écrans, ça ressemble à des moustiquaires qui sont tendus un peu comme une raquette et qui avaient la particularité d'être bleus. Pourquoi ce bleu ?
Parce que la refringence de cette couleur-là avec la lumière du soleil attire les mouches.
Alors aujourd'hui, on parle d'élimination durable en Guinée. Est-ce que ça veut dire que votre programme national de lutte s'arrête ?
Non, madame, le programme ne peut pas s'arrêter parce qu'on doit aller sur vraiment l'étape maintenant de la surveillance épidémiologique. Nous avons réfléchi, nous avons mis maintenant de nouvelles stratégies en place par les moyens qui sont rares maintenant, par vraiment tout ce qu'on a aussi comme outil de lutte. Nous avons mis en place la stratégie intégrée. Donc cette stratégie intégrée facilitera quand même de toucher d'autres maladies, mais aussi de faire une surveillance vraiment adéquate pour la lutte contre la maladie du sommeil.
Parmi ces autres maladies que vous allez surveiller, il y a d'autres maladies tropicales négligées ?
Nous avons la lèpre, nous avons l'ulcère de Buruli, nous avons le mycétome, nous avons les morsures de serpent. Toutes ces maladies-là vont être surveillées. Mais nous, au programme ici, nous avons mis l'accent sur la lèpre, l'ulcère de Buruli et d'autres manifestations cutanées.
On a bien compris votre programme avec toutes vos équipes, vous ne baissez pas la garde. Est-ce que cette riposte telle qu'elle a été conduite en Guinée, ça va pouvoir servir d'exemple dans d'autres zones qui sont toujours affectées par la maladie du sommeil, chez vos voisins par exemple ?
En Guinée, quand même, nous disons avec vraiment beaucoup de force que la Guinée a été quand même un exemple dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Afrique. Et l'expérience de la Guinée a été vendue quand même sur d'autres sites. La lutte antivectorielle, c'est en Guinée où on a vraiment implémenté la lutte antivectorielle. Et tous les autres pays sont partis de l'expérience de la Guinée pour vraiment implémenter la lutte antivectorielle. Je veux parler du Tchad, je veux parler de la RC Congo. Et tous ces pays-là aujourd'hui utilisent la lutte antivectorielle. Les équipes Trypano, vraiment, c'est une grande famille. Une grande famille qui collabore où nous échangeons largement entre nous sous l'égide de l'OMS.
On comprend bien que cette lutte, ce n'est pas pays par pays, c'est vraiment une cause de santé publique. Un grand merci à vous, hein, professeur Mamadi Camara. Merci pour toutes ces explications et très bonne journée à Conakry. On va parler d'autres maladies tropicales négligées, en particulier tout à l'heure de la bilharziose, mais en ce qui concerne les progrès, on peut citer aussi l'élimination de l'onchocercose, hein, la cécité des rivières au Niger, une première dans la région africaine de l'OMS. Professeur Ariski Isri, ça a été permis parce qu'il y a des grandes campagnes de distribution, hein, distribution massive de médicaments antiparasitaires, et ça marche.
Oui, tout à fait. L'ivermectine, qui est un vieux médicament, mais qui est maintenant utilisé de plus en plus pour de nombreuses maladies, tue les vers, notamment les microfilaires. Et donc, c'est distribué largamanu un peu partout, même en France, si on prend un petit peu Tahiti, par exemple. Hein. Et c'est comme ça qu'on fait la prévention contre les filarioses lymphatiques ou d'autres formes de filariose.
Alors, filariose lymphatique, à chaque fois, il faut expliquer ce que c'est. Ça ressemble à quoi quand on a des complications, par exemple, de filariose lymphatique? Parce qu'elle a un autre nom qui est assez parlant, cette maladie.
Alors, vous voulez parler certainement de l'éléphantiasis.
Ouais, c'est ça. Hein.
Donc en fait, on est piqué par des moustiques, parfois des moucherons, qui nous transmettent un vers, tout petit, un microfilaire, qui va se développer dans notre organisme, donner des adultes qui vont se reproduire et donner des milliers et des milliers de petits vers. Hein. Et ça peut boucher certains vaisseaux lymphatiques. Et à ce moment-là, on a des œdèmes, c'est-à-dire qu'on gonfle. Mm. On a des jambes qui deviennent... C'est un éléphantiasis, comme on dit. Mm-hmm.
Hein. C'est ça, c'est que ça déforme véritablement. Mm-hmm.
Voilà.
Et c'est des maladies qui sont à terme dangereuses.
C'est très handicapant.
C'est très handicapant, très stigmatisant aussi.
Très stigmatisant. Entendez, les personnes ne peuvent plus bouger, c'est catastrophique.
Parce qu'il y a aussi ça comme point commun, on dit maladie de la misère, mais c'est des maladies qui sont stigmatisantes, dans le sens où elles peuvent vraiment abîmer le corps, rendre les personnes autour d'elles, l'entourage s'éloigne, où il y a aussi des croyances mystique autour de ces maladies, tout ça, ça complique terriblement la vie des patients.
Oh oui, mais alors on vient de parler avec le professeur Camara de la trypanosomose. Mm. Vous savez, les trypanosomés, ceux qui étaient malades.
Maladie, hein, du sommeil.
Donc
ouais.
Vous voyez, ils étaient considérés comme des fous. Mm. Parfois, ils étaient agressifs. Donc effectivement, là, c'est un grand succès. Je vais en profiter, si vous me permettez, pour rendre hommage au docteur Chalier et au docteur Lavessière. C'est eux qui ont mis au point cette histoire de lutte contre les mouches tsetse par la couleur bleue.
C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est de
penser
de
que une idée. Comment une idée comme ça vient un jour? C'est vrai que ça ressemble, je disais, à une raquette de tennis un petit peu bleue. Et les mouches sont attirées, comme on dit, les abeilles par le miel ou les mouches par le miel. Et elles viennent et là, on peut s'en débarrasser.
Tout à fait. Initialement, c'était uniquement le bleu et le blanc, un contraste bleu-blanc. C'est un piège biconique et un trou foncé. Et les mouches rentrent là où c'est foncé, montent au niveau de la nasse qui est tout à fait en haut.
Mais, un piège.
C'est un piège, mais après, ça a été modifié. C'était juste une bande de tissu bleu. Et ensuite imprégné d'insecticides. Et aujourd'hui, ce que décrit le docteur Camara, c'est effectivement le dernier piège.
Un grand succès avec une bonne idée juste derrière.
Magnifique.
On va poursuivre notre échange. Professeur Ariski Isri, on va aller à Madagascar retrouver l'une de vos consoeurs parasitologues juste après Kezia Jones, Rainy Saturday dans Priorité Santé sur RFI. I need some affection. Ooh. Priorité santé sur RFI, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les maladies tropicales négligées, leishmaniose, maladies parasitaires, ectoparasites. Plus d'un milliard et demi d'individus concernés sur la planète par ces maladies. Toujours avec nous pour en parler dans les studios de RFI, professeur Areski Izri, professeur émérite en parasitologie, mycologie au service de parasitologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Professeur, au nom de ces MTN, il y a une affection qui peut avoir une incidence majeure sur la santé, c'est la bilharziose. On l'appelle aussi, alors je me lance, ça y est, j'y vais, schistosomiase, j'ai réussi.
Schistosomiase,
voilà, oui. Bon, vous me reprenez, vous avez raison. Oui. Une autre maladie parasitaire des eaux infestées, professeur Izri. À quoi il ressemble le parasite qui transmet cette maladie?
Alors le parasite... il est tout petit, il est transmis. D'abord, il se développe chez l'homme, principalement, au niveau de la vessie pour la forme la plus répandue, schistosoma. C'est un ver, un tout petit ver, un peu spécial, un peu particulier. Et puis, au niveau de l'intestin pour d'autres formes. Et cette maladie, on l'attrape effectivement au contact de l'eau, là où est libéré ce parasite par un mollusque. Chez qui il prolifère.
L'eau douce ?
L'eau douce, l'eau douce. On trouve ça beaucoup en Afrique, effectivement. On peut trouver aussi en Asie, en Amérique latine. Ça existe un peu partout. Il y a plusieurs formes.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand on a un enfant ou quand on est une femme, qu'on va à la rivière ou dans l'étang laver le linge ou même faire sa toilette, on a un risque de contracter la bilharziose ?
Absolument. Quand on lave le linge, si on se protège, s'il y a beaucoup de savon, ça peut éloigner un petit peu les... Mais sinon, on en trouve beaucoup. Quand on va en Afrique, par exemple, on voit les enfants qui jouent dans les marigots ou bien les gens qui vont pêcher dans les marigots. On les voit torse nu, les jambes nues, ils sont en moitié dans l'eau. Vous voyez, les enfants se baignent dans les marigots et là, ils attrapent la bilharziose. Il y a des régions où c'est à peu presque 100% de la population qui est concernée.
Par contre, on imagine en zone de mangrove, comme on a quand même de l'eau salée, là, il n'y en a pas ?
Là où il y a de l'eau salée, c'est moins touché. Il y a très peu.
Voilà. Et combien de temps se déroule entre l'infection et le développement des symptômes ?
Ça dépend d'abord de l'importance de l'infection, c'est-à-dire si on a beaucoup de schistosomes. Et ensuite, il y a une durée de 1 mois à 3 mois de développement au niveau du foie avant de passer dans la vessie. Et puis ensuite, dans la vessie ou l'intestin. Et là, on élimine des œufs qui traversent la paroi de la vessie. Et ça fait saigner et on voit du sang.
Donc c'est un symptôme, sang dans les urines.
Alors très souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas. Il faut qu'il y ait une charge parasitaire importante, beaucoup de parasites, pour qu'on voie effectivement que dans les urines, il y a du sang. Alors chez les enfants, en Afrique, il y a certaines régions où quand le garçon commence à éliminer du sang, on dit qu'il a sa puberté.
Ah oui, attention.
Donc c'est comme si c'était une fille. Donc, vous voyez,
ce genre, il aurait ses règles en garçon, mais ça n'existe pas.
Donc, en fait, ça arrive vers l'âge de 10... 15 ans, en gros, les symptômes, c'est là, parce que la charge est importante, c'est là qu'il urine du sang.
Alors, précisément, il y a Aruna du Mali, il a envoyé un message sur WhatsApp, il a 19 ans aujourd'hui, il a du sang dans les urines depuis 2 ans. Alors, sa mère lui a dit justement, non pas la bêtise que c'était parce qu'il était devenu un homme, mais simplement, sa mère suspecte une bilharziose à cause des symptômes. Aujourd'hui, il vit en ville, mais c'est vrai qu'il raconte qu'il a longtemps vécu au village, et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Vers qui Aruna doit-il se tourner pour trouver des réponses à ces questions? En tout cas, il doit se traiter, c'est très important.
Oui, alors au Mali, il existe des cabinets médicaux, évidemment. Il existe des hôpitaux, et en tout cas à Bamako, au point G, ils font très bien le diagnostic de la bilharziose. Donc un examen d'urine.
Il va au service de parasitologie?
Oui, un service de parasitologie. Ils font le diagnostic et ils peuvent le traiter. Donc, il y a de très bons médicaments maintenant. J'avoue que j'ai vu des jeunes de 20 ans qui ont des complications de la bilharziose urinaire avec notamment ce qu'on appelle une vessie de porcelaine. C'est-à-dire que la vessie est tellement parasitée qu'elle se calcifie et elle n'est plus vraiment fonctionnelle, vous voyez. Et là, c'est plus difficile. Donc, il faut traiter très tôt.
Donc,
tout
vraiment,
de suite.
Aruna, faut y aller. Rendez-vous au point G. Allez-y et faites les examens. Bien sûr, l'hôpital du Point G. On part maintenant pour Pointe-Noire, le Congo, avec en ligne Julson. Julson, bonjour.
Bonjour.
Alors, Julson, vous, c'est votre cousin. Lorsqu'il était enfant, donc il a vécu au Congo, il y est toujours, qui a eu la bilharziose. Est-ce que cette maladie a été traitée chez votre cousin ?
Oui, la maladie a été traitée, mais tardivement.
Ça veut dire que, d'après vous, il est resté avec cette maladie combien de temps?
Je peux dire 3 ans.
Il y avait beaucoup de bilharziose dans la région où il a grandi?
Oui, à l'époque, cette maladie était courante dans le département de la Buenza.
Dans le département
dans les années antérieures.
De la Buenza, c'est ça.
Dans les années antérieures.
Il l'a attrapé quand il avait quoi? L'adolescence? Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait suffisamment de symptômes pour qu'on dise « Ah ben, le cousin, il a certainement la bilharziose ?»
Oui, il avait fini par l'annoncer. Certes,
ouais.
il avait honte de le dire, mais bien après, lorsqu'il a constaté qu'il pissait vraiment assez du sang, eh bien, il a dit chez les parents.
Mmh. Parce que ça, d'après vous, Julson, c'est quelque chose d'important aussi à dire, qu'à cause des symptômes, donc ce sang dans les urines, il y a pas mal de garçons qui le cachent à la famille parce qu'ils sont gênés de le dire.
Oui, il était vraiment gêné.
Ouais.
Il était gêné.
Votre cousin, il a quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, il a 47 ans.
47 ans. Est-ce que ça a été compliqué de venir à bout des symptômes, de se débarrasser de cette maladie pour lui?
Ce n'était pas difficile.
Ouais.
C'était pas difficile. Après l'examen des urines, on l'avait prescrit un antibiotique. Après l'antibiotique, il n'y avait plus le signe de... Il n'y avait plus le sang dans les urines.
Alors on lui a donné un médicament, je me tourne vers le spécialiste, professeur Isry. Le médicament qui fonctionne contre la bilharziose, c'est quoi?
Alors c'est le praziquantel, on l'appelle, c'est le biltricide hein, pour le nom commercial. C'est un médicament très très efficace.
C'est un antiparasitaire?
Un antiparasitaire,
d'accord.
Qui est très très bien, qui est pas de problème.
Hein. On le prend sur combien de temps? Est-ce que ce sont des cachets? Est-ce que c'est une injection?
C'est presque une dose unique. Hein.
Une
c'est...
dose unique, ah oui,
donc,
ouais, ça vaut le coup.
En une journée, on peut le faire en 2 fois et puis c'est réglé. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, est-ce que votre cousin, donc, qui a un petit peu moins de la cinquantaine, il a des problèmes de santé en particulier?
Oui.
Vous pouvez nous dire plus?
Il a commencé à développer les signes de la prostatite autour de 40 ans. Donc Il avait mal au niveau du bas ventre, il avait des difficultés pour uriner.
Oui.
Ensuite, là, il constatait une cystite.
D'accord. Donc, il a eu une infection urinaire, des difficultés pour uriner. Est-ce qu'il a pu consulter un spécialiste, un urologue ou pas vraiment?
Bon, pas un spécialiste, un généraliste.
Oui.
Mais c'est après le diagnostic qu'on lui a dit qu'il était vraiment prostatique.
D'accord.
Et c'est là où nous avons compris que c'est ce qu'il était en train de développer. Était dû à cette pathologie, à cette maladie.
Je me tourne vers le spécialiste, professeur Areski Isry. Évidemment, à distance, très compliqué de répondre, mais est-ce que vous avez constaté, vous, dans votre pratique, certains liens entre bilharziose à l'adolescence et prostatite à l'âge adulte?
C'est une des complications possibles. Hein. Vous savez, les schistosomes, les œufs, hein, donc, vont traverser la paroi, mais ça peut se faire aussi au niveau de l'intestin. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau des selles, mais surtout au niveau des urines. Il y a 3 formes de bilharziose là où vit ce patient. Il y a la bilharziose intestinale, qui est beaucoup plus dangereuse quand elle se développe parce qu'elle touche le foie, et à ce moment-là, c'est très compliqué. Il y a la bilharziose urinaire, et il y a une autre forme de bilharziose rectale, hein, plutôt, qui est peut-être moins dangereuse. Donc, vous voyez, tout dépend du parasite, hein.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la prostatite, elle doit être traitée avec un urologue. Il faut consulter et aller poser des questions.
Absolument. Il faut aller vérifier si cette prostatite est directement liée à la bilharziose ou si c'est quelque chose qui est
complètement différent. D'accord. Merci beaucoup, Julson, pour votre appel. Question simple de... Peut-être pas si simple, hein, de Josepha du chat sur WhatsApp. Comment peut-on prévenir la bilharziose? À part ne pas aller se baigner dans des eaux contaminées, qu'est-ce qu'il y a comme solution?
Alors, il y a des endroits où on élimine la bilharziose. Donc, c'est une forme de prévention. En traitant les eaux, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut mettre des produits pour tuer les mollusques. Mais plus, il y a des gens qui ont fait des systèmes un peu de... Ils bloquent la rivière pendant une période, ils dévient le cours de la rivière et puis ils le font tous les 2 ans, ils remettent la rivière à sa place. Vous voyez, ça permet d'assécher et donc de tuer les mollusques. Mais sinon, une prophylaxie, médicament prophylactique, je ne sais pas s'il en existe beaucoup.
Mmh, donc par médicament en tout cas. Parmi les territoires infestés par la bilharziose, il y a Madagascar, on s'y rend tout de suite.
RFI à Antananarive. 96 FM.
Le SIC est traité.
En ligne avec nous, on continue d'échanger avec le professeur Isry, la chef de service de microbiologie, parasitologie, mycologie au CHU JRA à Antananarive. Professeur Miali Razana Colonna, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bonjour.
Bonjour Madame Caroline Paré, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à Monsieur Isri.
Bonjour Miali, je suis très heureux de vous entendre.
Le petit monde de la parasitologie. Alors Madagascar, concerné par plusieurs de ces maladies tropicales négligées, c'est quoi les plus fréquentes sur la grande île?
Bon, les plus fréquentes, c'est surtout les pathologies du péril fécal, comme l'amibiase, comme vient de parler Monsieur Isri tout à l'heure. Ouais. Tout ce qui est en relation avec le péril fécal, les schistosomiases, bilharziose aussi, beaucoup de protozoaires, qui est vraiment des indices de consommation de matière fécale humaine.
Ça veut dire que l'eau est contaminée. On avait un auditeur du Mali tout à l'heure qui évoquait donc cette bilharziose, et elle est bien présente chez vous, hein, professeur?
Oui, tout à fait. Dans tout l'est de Madagascar, c'est la bilharziose intestinale et la partie ouest, c'est la bilharziose urinaire.
Est-ce que les populations connaissent cette maladie? Est-ce qu'ils sont familiarisés?
Non, ils ne sont pas tellement connaissants par rapport au mode de contamination. Hein, seuls qui font des signes cliniques, seuls qui viennent à l'hôpital pour se faire consulter.
Et du côté des soignants, est-ce qu'on connaît bien les symptômes? Est-ce qu'on connaît bien le diagnostic, y compris dans les centres de santé primaires?
Oui, dans les endroits endémiques, ils connaissent le diagnostic et on a tendance à traiter de façon par le traitement de masse sans être spécifique. Il n'y a pas de bilan en particulier parce que c'est cher par rapport à la plupart de la population. Donc, on a tendance à traiter de façon générale. Comme ça.
Alors, on a compris, vous avez dit maladie du péril fécal, des maladies qui sont liées à des questions d'hygiène, d'insalubrité, avec des maladies parasitaires. Oui. Et il peut même y avoir des atteintes au niveau neurologique du cerveau, du système nerveux.
Oui, effectivement. La plupart du temps, c'est dans la phase de complication seulement que les gens viennent à l'hôpital pour se faire consulter. Souvent, ce sont des atteintes qui sont définitives. Il y a pas mal de problèmes neurologiques comme la bilharziose. Au cerveau, qui nécessite des interventions chirurgicales. Mm-hmm. Pareil pour la neurocysticercose. C'est comme ça aussi que ça arrive. C'est dans la phase de complications, des convulsions intenses et même dans la phase de démence parce que c'est vraiment négligé.
Ah oui, on peut imaginer, c'est proprement dramatique avec des crises qui peuvent vraiment ressembler à des crises d'épilepsie. Est-ce que d'ailleurs, dans la plupart des cas, un certain nombre de patients ont consulté en dehors des structures médicales conventionnelles, ils vont voir des tradis et ça peut, là aussi, conduire à un retard de prise en charge?
Oui, tout à fait, comme dans toute l'Afrique. Hein. On consulte les gens, les traditionnels qui traitent et qui ça fait tarder vraiment la consultation médicale.
Ils recommandent quoi? Des tisanes, de la phytothérapie?
Oui, des tisanes pour le traitement thérapeutique, des prêtres. Des prêtres même, des feuilles de manioc, des huiles de caïman pour soulager de façon moins chère.
Moins chère, mais, c'est vraiment, mais ça ne marche pas forcément sans critiquer complètement la médecine traditionnelle. Vous observez que ça ne marche pas en tout cas.
Non, ça ne marche pas.
Par contre, il y a des médicaments qui marchent, professeur.
Quoi?
Je disais par contre, quand on va dans un centre de santé ou à l'hôpital, il y a des médicaments qui marchent, mais il y a une vraie question qui se pose pour les populations, c'est est-ce que les populations ont de quoi payer ces médicaments?
Voilà, ils n'ont pas tellement, ils n'ont pas tellement les moyens déjà pour faire le bilan. Ce sont les bilans qui les bloquent, les scanners, la sérologie, c'est très cher. Les médicaments, c'est abordable, je pense, pour la plupart des médecins de la population, mais c'est surtout les moyens de diagnostic, d'imagerie et de biologie qui les freinent.
Ça mais les médicaments marchent. Très, très cher. Les médicaments marchent. Et on peut imaginer donc que dans votre contexte, justement, quand on sait que les personnes ne vont pas pouvoir financer ses soins, il y a un énorme effort qui est fait sur la prévention, mais est-ce qu'on peut vraiment les prévenir dans le contexte malgache, ces maladies tropicales négligées?
Non, ouais. Je ne pense pas. Parce que ça dure depuis des siècles. Il y a des, bien sûr, la sensibilisation pour la construction des latrines, mais peu de gens le respectent. C'est vraiment lié au péril fécal et vraiment au manque d'éducation.
Et ça veut dire aussi qu'il faut aussi peut-être qu'il y ait un investissement et des efforts de la part des pouvoirs publics pour accompagner justement cette sensibilisation sur l'hygiène et sur l'accès à des installations saines pour les populations.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment toutes les informations, les éducations pour le changement de comportement, c'est ça qui manque dans tous les domaines, même à partir des qu'il faut faire, hein, à partir de l'école primaire déjà. Surtout les gens qui manipulent les gargotes, les hôtels qui sont destinés pour les gens.
Ceux qui travaillent dans la restauration, c'est très important. On va parler d'une maladie avec vous, parce qu'elle existe aussi chez vous à Madagascar. Si vous voulez bien, professeur Razanako Lona, on va donner la parole à Josias, qui est en ligne de Kinshasa. Josias, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Alors Josias, vous êtes étudiant en médecine, d'abord félicitations. Vous avez une question sur une maladie qui a touché quelqu'un dans la famille. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Oui, c'est de l'ulcère de Buruli.
Comment l'ulcère de Buruli est appelé dans la langue de tous les jours, dans le vocabulaire à Kinshasa?
Ici, communément, on parle de Mbas.
Ok, d'accord. Et c'est quelqu'un donc de votre famille qui a été concerné, votre oncle, vous en parliez en famille ou c'était quelque chose de plutôt tabou?
Bon, je savais qu'il était malade, mais j'en restais pas vraiment trop plus.
Vous savez qu'il était malade? Est-ce que vous l'avez côtoyé quand il était malade? Est-ce que vous avez vu à quoi ressemblait l'ulcère de Buruli?
Bon, j'étais un peu petit, mais je savais que sa jambe avait un peu grossi parce que c'était à la jambe.
Ouais.
Et c'était une grosse plaie, oui.
Il y avait des plaies au niveau de la jambe, hein. C'est vraiment quelque chose qui est parfois assez impressionnant, comme si la peau était nécrosée, arrachée, comme s'il y avait eu finalement un accident et que la peau était complètement à vif. C'est quelque chose qui peut être absolument effrayant à voir. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il a été soigné?
Bon, ici d'abord, on parle souvent du côté mystique de la maladie. On dit qu'il n'y a pas de côté mystique et souvent on va en médecine traditionnelle.
Si oui, donc il y avait. Donc on n'entend pas très bien, donc je redis, hein, juste pour les auditeurs qui perçoivent bien, on pense à des explications mystiques. Il est allé voir le tradi. Et vous, dans vos études de médecine, est-ce que vous avez eu l'occasion, Josias, de travailler sur cet ulcère de Buruli?
Non, pas encore, vu que je suis dans les premiers cycles de. Et mes études,
d'accord.
Pas encore.
Et vous aimeriez vous travailler sur ces maladies tropicales négligées?
Oui, bien sûr, parce que mon oncle a d'ailleurs été décédé à cause de ça.
Ah oui. Vous avez une question précise justement sur cette maladie qui a été fatale à votre oncle?
Oui, je voulais en savoir plus sur la maladie en général et surtout sur la prise en charge.
Professeur Miali Razanako Lona, ulcère de Buruli, ça existe aussi à Madagascar. Comment c'est pris en charge? C'est la question de Josias. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, vous entendez?
Oui, je vous entends parfaitement. Sur cette question de la prise en charge de l'ulcère de Buruli, la question que pose Jonas, est-ce qu'il y a déjà un médicament qui existe?
D'accord, merci beaucoup. Déjà, je tiens à rassurer l'étudiant Josias. C'est une maladie qui était négligée, mais pas du tout mortelle. Et ce n'est pas du tout une maladie mystique. Donc, c'est curable, mais c'est seulement dans la dernière décennie, hein, depuis une dizaine d'années, qu'on a pu trouver le médicament qui marche. Donc, nous avons comme traitement, hein, une association de deux antibiotiques, dont la rifampicine et la clarithromycine qu'il faut prendre tous les jours par voie orale et pendant 8 semaines. Donc, il faut le prendre d'affilée. C'est vraiment une bonne découverte qui a été proposée par les chercheurs qui travaillent avec l'OMS, parce que depuis 10 ans, on peut traiter vraiment la maladie d'ulcère de Buruli lorsque ça est diagnostiqué dans la phase précoce, c'est-à-dire lorsque le nodule est moins de 5 cm. Pour les nodules de score 2, qui est dans les 5, entre 5 et 15 cm, on les traite, et bonne nouvelle aussi, avec les mêmes molécules, il n'y a plus de récidives. Avant, le traitement faisait vraiment des récidives lorsque c'est étendu dans le score 2. Et troisièmement, on a la chirurgie lorsqu'on a le score 3. Donc, on fait prendre la rifampicine et l'clarithromycine lorsque les nodules dépassent, le chancre dépasse le diamètre de 15 cm et on rajoute le traitement chirurgical parce que ça atteint déjà l'os.
On peut bien comprendre, oui, c'est absolument redoutable. Et en tout cas, ce qu'on comprend, et on vous remercie beaucoup pour votre intervention, professeur, à Madagascar, c'est qu'il est essentiel de poursuivre la recherche et les efforts pour trouver des traitements, parce qu'on l'a vu avec l'ulcère de Buruli, on l'a vu tout à l'heure avec d'autres médicaments, on parlait de l'ivermectine, qui est un vieux médicament, mais qui marche. Il faut absolument, hein, ce sera le mot de la fin, professeur Areski-Izri, continuer à chercher pour trouver des solutions pour ces millions, centaines, plusieurs centaines, plus d'un milliard et demi de personnes concernés par les maladies tropicales négligées.
Absolument, il n'y a pas de secret. Il faut des financements, des chercheurs pour travailler à la fois sur le terrain et au laboratoire. Là, l'ulcère de Buruli, on connaît maintenant l'agent pathogène, on connaît le traitement. C'est la même chose pour de nombreuses maladies tropicales, mais nous n'avons pas encore assez de moyens de lutte.
Et des moyens
et
de lutte à l'échelle.
Ouais, d'éducation
et d'éducation des populations.
Et d'information des populations. Et professeur Miali a raison, c'est dès l'école primaire qu'il faut former les gens.
Former les gens et aussi inciter les pouvoirs publics à investir pour l'hygiène et l'assainissement.
Ça, on peut toujours, rêver, espérer.
Il faut continuer de le dire.
Il faut lutter quand même.
Il faut continuer de le dire. On vous dit vraiment merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Professeur Izri, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer en cette journée de lutte contre les maladies tropicales négligées?
Oui, je crois que c'est ce qu'on vient de dire un petit peu, c'est-à-dire l'information, l'éducation, le financement. Mais tout ça, il faut que beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs le disent, le répètent. Et il faut que les autorités politiques soient sensibilisées. Vous savez, ce n'est pas des vœux pieux, mais il faut vraiment lutter pour avoir un peu de moyens là-dessus.
Un peu de moyens et d'accès à la santé à tous. Voilà. Avant de nous dire au revoir, collaboration entre Rachid, Marilia Lopez et Kané Taria pour ce titre, Quem vai ser.
Relógio e tic-tac, xadrez e xeque-mate, coração e o bate-bate-bate, televisão e novela, Gisele e passarela, o funk e a favela, um só existe por causa do outro, outro sozinho se sente tão pouco, que louco, que louco. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Teu, meu, yeah. Rachid.
É Pique Yang In, não e sim, Jake Finn, Galvão Bueno sem plim plim, Bochecha sem Claudinho, show sem aplaudir, é um disquite, é esse hit sem você pra ouvir, e esse lance é o que me faz completo, teu abraço preenche tudo, entre o chão e o teto, e meu coração nas nuvens, buscando uma casa, o amor é um voo, onde cada um é uma asa, a gente é paz pra casa e férias pra NASA, quando o beijinho já embrasa e a pele vaza, não é novidade, não existe poesia sem palavra, e no meu caso, não existe palavra sem verdade.
Um só existe por causa do outro, outro sozinho se sente tão pouco. Que louco, que louco. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Se não for
Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pou, demain. Dans notre émission Questions de femmes, nous allons parler des troubles et maladies de la thyroïde. Prévention, diagnostic, prise en charge, un spécialiste à votre écoute. On se donne rendez-vous bien sûr dès 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.
C'est Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.